Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Les Vénézuéliens se rendent aux urnes ce dimanche 21 novembre pour un scrutin régional et municipal. 23 postes de gouverneur et 335 de maire sont en jeu dans un contexte de fortes tensions intérieures et de sanctions économiques imposées par les États-Unis, l'Union européenne et le Canada. Après 3 années de boycott et d'appel à l'abstention, l'opposition à Nicolas Maduro, dont la réélection en 2018 avait été jugée frauduleuse, participera au scrutin, mais de manière généralement désunie. Un scrutin sous surveillance, 350 000 militaires et policiers seront mobilisés, à quoi s'ajoute une mission d'observation de l'Union européenne, des experts de l'ONU et du Centre Carter, fondé par l'ex-président américain Jimmy Carter. L'enjeu de ce scrutin est le déblocage politique et économique du Venezuela. Le taux de participation sera scruté à la loupe. Évidemment, la crise et les sanctions auront-elles raison du parti de Nicolas Maduro et plus généralement du chavisme? La question est posée alors que la stratégie de Donald Trump pour déloger Maduro n'a pas marché, que Joe Biden, qui se montre plus souple, sait aussi que négocier avec Maduro pourrait lui coûter cher dans la perspective des élections de mi-mandat en 2022. Regard avec nos invités par téléphone depuis Caracas, Benjamin Delisle, journaliste, reporter au quotidien Libération. Bonjour.
Bonjour.
Également par téléphone depuis Madrid, Thomas Posado, docteur en sciences politiques à l'Université Paris 8, chercheur associé au CRESPA CSU Culture et Société Urbaine et membre scientifique de la Casa de Velázquez à Madrid, co-directeur avec Franck Godichaud de Gouvernement progressiste en Amérique latine 1998-2018, La fin d'un âge d'or, paru cette année aux presses universitaires de Rennes. Bonjour.
Bonjour.
Et en studio, Maurice Lemoine, journaliste et écrivain, auteur du Venezuela, chronique d'une déstabilisation, paru aux éditions Le Temps des Cerises. Bonjour.
Bonjour.
Quel est, à la veille de ce scrutin, le premier donc auquel l'opposition a accepté de participer depuis la présidentielle de 2018, quel est donc le panorama politique au Venezuela? Et c'est peut-être avec vous, Benjamin Delisle, que nous allons commencer. Que dire du climat à la veille de ce scrutin, Benjamin Delisle?
Eh bien, étonnamment, contrairement aux élections précédentes au Venezuela, le climat est vraiment très calme. Il n'y a pas cette tension qu'on a l'habitude de voir au Venezuela entre d'un côté l'opposition et de l'autre les forces chavistes qui soutiennent le gouvernement de Nicolas Maduro. On sent vraiment une campagne beaucoup plus sereine. Alors l'opposition arrive très fracturée, très divisée, et elle est très consciente du fait que ce scrutin va être extrêmement compliqué, que ça va être très dur de gagner beaucoup de voix parce que la population est très apathique, la crise a fait beaucoup de mal, que ce soit justement les problèmes de dollarisation, d'hyperinflation qui augmente le coût de la vie et le fait que voilà la vie soit totalement dollarisée et que ça crée d'énormes disparités entre les personnes qui ont des moyens et les autres qui sont voilà très très pauvres, et aussi les problèmes de services publics qui sont toujours un peu compliqués au Venezuela, que ce soit l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité. Alors il y a eu des améliorations ces derniers mois, notamment à Caracas où quand on arrive aujourd'hui, on voit une ville qui est quand même qui donne en tout cas l'impression d'être une ville bien entretenue. C'est-à-dire que tout a été refait, les routes sont plutôt propres, tout a été repeint. Bon, c'est des choses qui sont habituelles avant des processus électoraux, notamment des processus municipaux ici au Venezuela. Mais en tout cas, ce qui est étonnant, c'est vraiment ce calme qu'on ressent à Caracas. Il n'y a pas cette polarisation qu'on avait avant entre les différents acteurs politiques, et une campagne qui se passe voilà plutôt bien. C'est-à-dire que l'opposition fait campagne, le chavisme n'est pas aussi, je trouve, présent qu'avant. C'est-à-dire que il y a une campagne qui est faite, mais elle est plutôt tranquille. Il n'y a pas de grandes pancartes partout. C'est quelque chose d'assez étonnant. On a l'impression de revenir à une forme de normalité électorale ici. Alors, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, c'est-à-dire qu'au sein de l'opposition, on est très divisé. Il y a ceux qui ont envie de voter pour voilà changer de gouvernement, et enfin, en tout cas, c'est pas le gouvernement qui va changer ce week-end, mais pour commencer à avoir des représentants politiques au moins dans les mairies et dans les régions, et d'autres qui ne veulent plus participer parce qu'ils n'y croient plus. Ils ont l'impression qu'en fait, le système politique est complètement accaparé par le chavisme et par Nicolas Maduro.
Alors, Benjamin Delisle le disait, Thomas Posado, la campagne est une campagne électorale qui s'est déroulée de manière plutôt tranquille. Il faut dire, on doit le rappeler, que à la fois les forces du gouvernement et les forces d'opposition se retrouvent depuis août dernier à Mexico dans le cadre de négociations organisées sous l'égide de la Norvège. Alors, elles ont été suspendues, ces négociations, après, et on va en parler, l'extradition aux États-Unis d'un proche de M. Maduro. L'élection va permettre de comprendre l'exactitude et les véritables rapports de force entre opposition et gouvernement. Qu'est-ce que l'on peut dire et quels commentaires pouvez-vous nous faire quant à l'opposition qui se présente de manière désunie, Benjamin Delisle l'a dit. Et comment expliquer finalement que Juan Guaido, qui a été soutenu par un certain nombre de pays, eh bien finalement n'ait pas réussi à fédérer l'opposition comme très probablement il en avait l'objectif, Thomas Posado?
La stratégie de l'opposition, elle arrive à ses limites. C'est-à-dire que là, le principal enjeu pour ces élections, pour l'opposition, c'est d'arriver à convaincre que le système électoral qu'elle a décrit comme frauduleux depuis 4 ans, avec un certain nombre de raisons, il mérite quand même de s'investir ce coup-ci. Et les taux de participation sont annoncés vraisemblablement très bas, et sans doute que l'opposition va perdre dans une majorité de régions et de municipalités. Alors, enfin, on peut pas présager du résultat, mais sans doute le rapport de force lui sera défavorable parce que ça va être très difficile de convaincre les Vénézuéliens que ça vaut le coup ce coup-ci de participer. Ce qui est une des limites de l'opposition, c'est cette stratégie qui a été définie par Juan Guaido, c'est-à-dire de faire appel à l'armée, de faire appel à la communauté internationale, mais où il a manqué sans doute ce travail de terrain auprès des Vénézuéliens et sans doute un tropisme historique de l'opposition vénézuélienne plus vers les classes possédantes, qui lui fait manquer les millions de voix qui pourraient être déçues du chavisme et qui se retrouvent dans ce genre de contradiction. On a aussi toute la question autour des sanctions des États-Unis, ce qui fait débat au sein de l'opposition. Faut-il demander plus de sanctions qui sont précisément une des raisons qui affament les Vénézuéliens et qui rendent plus difficile leur vie quotidienne, ou faut-il demander la fin de ces sanctions pour avoir un débat politique apaisé et permettre de lever des souffrances aux Vénézuéliens? Là-dessus, les dirigeants politiques de l'opposition ne sont pas d'accord. Enrique Capriles, par exemple, en appelle à une levée des sanctions. Des autres dirigeants plus radicaux, comme Juan Guaido, comme Leopoldo López, en appellent à en maintenir et en appellent à continuer à jouer de cette arme dans le rapport de force contre Nicolas Maduro.
Alors, Maurice Lemoine, nos commentaires sur ce qui s'est dit jusqu'à présent et finalement, qu'est-ce qui peut arriver avec ces élections?
Écoutez, je suis d'accord avec ce que raconte Delisle. Je vous rappelle que je suis rentré du Venezuela vendredi dernier. Donc effectivement, la campagne est particulièrement cool. Alors après, ça a été également... l'opposition est en complète décomposition. Il faut rappeler quand même que l'opposition de droite modérée a participé à l'élection présidentielle de 2018, en particulier avec Henri Falcón, qu'elle a participé aux dernières législatives. Mais bien évidemment, comme les secteurs radicaux appelaient au boycott, code de l'élection, elle a obtenu des résultats extrêmement minimes. Il va sans doute se passer d'ailleurs la même chose cette fois-ci, parce que l'opposition est complètement divisée entre les modérés et les radicaux. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que le scrutin actuel, si les radicaux se présentent, c'est en partie vraisemblablement parce que c'est une sorte de première primaire avant la prochaine présidentielle pour voir qui des quatre grands partis, ce qu'on appelle le G4, va arriver en tête pour pouvoir présenter un candidat pour la présidentielle.
De 2024.
De 2024. Voilà. Après, il y a une grande incohérence. Il y a un acteur principal, c'est les États-Unis. Il est évident que si l'opposition radicale a accepté d'aller à la table de négociation, c'est parce que les États-Unis l'ont autorisé. Et en même temps, on a une espèce de contradiction, puisque mardi dernier, un sous-secrétaire d'État pour l'hémisphère occidental, donc l'Amérique latine, Kevin O'Reilly, si je ne me trompe pas, a déclaré que les conditions n'étaient pas réunies pour les élections, etc., 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 comme d'habitude, et qu'il continue à soutenir Juan Guaido, alors que tout le monde sait que Juan Guaido ne représente plus rien. Il y a là, du coup, une lecture extrêmement difficile de la position des États-Unis. Or, évidemment, c'est l'acteur central de cette crise, puisque les sanctions ont été évoquées par nos deux nos deux interlocuteurs. Je termine par une anecdote pour aller très très vite, pour vous citer ce que ça veut dire. Là, donc, je vous l'ai dit, je reviens de Caracas. J'ai passé 15 jours, une semaine sur la frontière colombienne, une semaine à Caracas. Pendant une semaine, dans le quartier populaire de La Pastora, où j'étais logé, il n'y avait pas d'eau. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas d'eau? Est-ce que c'est l'incurie de Nicolas Maduro ou est-ce que c'est autre chose? Alors, je vais très très vite, Caracas est à entre 800 et 1000 mètres d'altitude. Là, le lac artificiel de Camatagua, qui alimente Caracas à 80%, est à 160 km et à 200 mètres d'altitude. Il faut donc des pompes extrêmement puissantes pour monter l'eau de 200 mètres jusqu'à 800 mètres. Ces pompes, il y a 5 énormes pompes, alors j'appelle ça des pompes, c'est évidemment plus compliqué, hein, ont été installées par Siemens, la firme allemande Siemens, il y a de ça plusieurs décennies, dans les années 60, 70, 80, et c'est la seule entreprise qui est capable de les entretenir. Il se trouve que deux de ces pompes sont en panne. Le gouvernement vénézuélien se tourne vers Siemens pour les réparer, pour faire la maintenance, et Siemens répond « On est désolé, on aimerait bien vous aider, mais si on vous aide, on tombe sous le coup des sanctions américaines. » Et donc là, on tombe sur l'aspect central, et je termine là-dessus, c'est-à-dire que bien souvent, on présente la situation au Venezuela comme étant une situation calamiteuse du gouvernement Nicolas Maduro qui serait aggravée par les sanctions, et moi je prétends que c'est l'inverse. Ce sont les sanctions qui sont le pivot central de la situation catastrophique au Venezuela. Et que tant que ces sanctions, qui sont d'ailleurs considérées par un certain nombre d'experts comme des véritables crimes, auront lieu, la situation peut difficilement s'améliorer.
Géopolitique. Benjamin Delisle, les sanctions pivot central de la situation catastrophique que connaît le Venezuela aujourd'hui, vous partagez ?
Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, les sanctions qui ont été mises en place ces dernières années avaient un but très clair, c'était de renverser le plus vite possible Nicolas Maduro, et que c'est un échec total, et que aujourd'hui, les effets des sanctions sont effectivement extrêmement compliqués pour le Venezuela. Je ne sais pas si on peut parler de pivot central, mais en tout cas, ça s'ajoute à une situation économique qui est extrêmement compliquée depuis déjà une dizaine d'années. Et ce qui est très clair dans la stratégie d'une partie de l'opposition qu'on qualifie aujourd'hui assez facilement de radicale, c'est que on a cet appel à plus de sanctions, plus de pression sur le Venezuela, avec en fait derrière une logique un peu cynique qui est de dire plus les Vénézuéliens seront mal, plus ils seront, prêts à se soulever contre leur gouvernement, ce qui est quelque chose qui se vérifie pas vraiment, enfin pas du tout, même aujourd'hui au Venezuela, hein, quand les gens ont faim, et je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui les motive à s'impliquer politiquement pour renverser leur gouvernement. Ils sont plutôt dans cette recherche constante de trouver à manger, de trouver comment survivre. Et cette logique-là, ce qui est intéressant dans la campagne qu'on a en ce moment, alors je ne sais pas s'il n'y a qu'une opposition modérée, une opposition radicale, vraiment c'est une opposition extrêmement fracturée avec beaucoup, beaucoup de différentes tendances et beaucoup de candidats qui font partie de la table de l'unité démocratique, de la MUD, donc de ce fameux G4 dont on parlait tout à l'heure, dans lequel il y a le Parti Voluntad Popular de Juan Guaido, sont en train de remettre en cause cette logique-là de pression maximale, parce qu'ils se rendent bien compte que ça n'a vraiment aucun effet positif sur la population vénézuélienne. Et la position de Juan Guaido, qui consiste à dire, avec surtout derrière lui, hein, Leopoldo López, qui est quand même quelqu'un qui a beaucoup plus d'influence, qui consiste à dire il faut plus de pression, cette position-là, elle est vraiment plus partagée par toute l'opposition, et au contraire, je trouve qu'elle commence à être minoritaire. Et c'est plutôt positif au sens où aujourd'hui on a quand même un début de discussion qui semble pouvoir se mettre en place au sein de l'opposition pour avoir un cadre de négociation avec le gouvernement.
Alors commentaire aussi de votre côté Thomas Posado, et on a précisément parlé des négociations qui ont démarré en août dernier, interrompues il y a quelques semaines avec l'extradition aux États-Unis d'un proche de Nicolas Maduro. C'est ces négociations, Thomas Posado, de quoi retournaient-elles précisément ?
Elle retourne de l'impasse dans laquelle on vient de parler, c'est-à-dire que on a une situation économique qui est désastreuse, des difficultés dans la vie quotidienne des Vénézuéliens qui sont importantes, et une situation d'affrontement politique qui n'évolue pas et qui au contraire est dans une espèce de statu quo qui n'a rien de bon à amener aux Vénézuéliens. Chacun est venu à la table des négociations avec un certain nombre de revendications de part et d'autre. Du côté de Nicolas Maduro, on demandait donc la fin de ses sanctions, demander la reconnaissance des pouvoirs qu'il juge légitimes au Venezuela. On demande la renonciation à toute forme de violence de la part de l'opposition. Du côté de Juan Guaido, on demande la restauration de liberté démocratique, on demande libération de prisonniers politiques, on demande des élections générales libres, etc. Mais ce qui est un drame dans cette situation, c'est que il y a un certain nombre d'enjeux qui peuvent intéresser la population vénézuélienne. Cette levée des sanctions, elle serait décisive, on en a parlé. La restauration d'un certain nombre de libertés démocratiques, elle serait extrêmement importante pour les Vénézuéliens, pour avoir le droit de protester sans arrestation arbitraire, comme il y en a malheureusement au Venezuela. Mais le problème, c'est que ces discussions ont achoppé sur des enjeux qui intéressent précisément ces élites, à la fois du gouvernement et à la fois de l'opposition, et des élites qui sont relativement décrédibilisées au Venezuela, parce qu'aux yeux de la population vénézuélienne, elles n'ont pas apporté ces dernières années une solution à cette crise. Et où on est sur l'arrestation d'Ondalk Saab, dont je pense qu'on va parler de manière plus développée, sur en représailles des arrestations de dirigeants de CITGO, donc qui se sont appropriés l'entreprise appartenant à l'État vénézuélien qui opère aux États-Unis. Donc on a des enjeux qui semblent décorrélés entre ceux qui relèvent de ces élites politiques et ceux qui intéressent la population. Et pourtant, il y a vraiment des choses à faire qui seraient extrêmement décisives. Sur ce qui se disait sur les sanctions, je suis d'accord avec le fait qu'elles ont des conséquences criminelles pour la population, qu'elles sont illégales au point de vue du droit international. Après, enfin, pour revenir sur l'histoire de la crise au Venezuela, l'effondrement de la monnaie a commencé bien avant ces sanctions et la dépendance qui date d'un siècle hein, au pétrole et la chute des cours du pétrole ont eu un impact avant même que ces sanctions contribuent à aggraver cette crise économique et fait en sorte que sans la levée de ces sanctions, c'est difficile d'imaginer un redémarrage économique au vu du blocus que ça entraîne pour le pays.
Alors effectivement, juste quelques chiffres à propos de la situation économique du Venezuela. Je parle sous votre contrôle à chacun. Mais donc, le Venezuela qui connaît l'une des pires récessions au monde. Sous Maduro, l'économie a chuté de 75%. Alors, effet de sanction, pas effet de sanction. Quelques 6 millions de personnes ont émigré, soit plus d'un cinquième de la population. Et on dit aussi que trois quarts des foyers vénézuéliens vivent dans la pauvreté extrême, avec des revenus qui ne permettent pas à ces foyers de couvrir leurs besoins alimentaires. Tout cela, bien sûr, en dépit du fait que le Venezuela possède les premières réserves pétrolières du monde. Thomas Posadou nous a ouvert le sujet sur l'extradition le 17 octobre dernier de l'homme d'affaires Alex Saab, extradé du Cap-Vert vers les États-Unis, Maurice Lemoine. Un proche de Nicolas Maduro accusé d'avoir détourné l'aide alimentaire destinée au Venezuela. C'est cette extradition qui a mis un terme aux négociations au Mexique entre opposition et gouvernement vénézuélien sous l'égide de la Norvège. Commentaire sur cette extradition ?
Alors c'est compliqué parce qu'on est trois et donc il faut être bref, hein, faut respecter nos interlocuteurs. L'affaire serait presque amusante parce que lorsqu'on présente Alex Saab comme celui qui aurait détourné l'aide alimentaire, en réalité il a été kidnappé au Cap-Vert. Il a été kidnappé, je dis bien, il a été kidnappé parce qu'il aidait le président Nicolas Maduro, le gouvernement bolivarien, à organiser l'aide alimentaire à la population vénézuélienne. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de ces mesures coercitives unilatérales qui sont imposées au Venezuela par les États-Unis, l'un des objectifs des États-Unis, ça a été, et c'est toujours, d'empêcher l'importation d'aliments pour la population. De sorte qu'effectivement, le Venezuela se trouve dans une situation extrêmement compliquée sur le plan alimentaire. Le gouvernement bolivarien, avec l'aide de Alex Saab, a organisé l'importation par des circuit parallèle d'aliments venant d'Iran, de Turquie, etc., etc. Et c'est la raison pour laquelle les États-Unis veulent interrompre cette opération et en particulier ont extradé Alex Saab pour savoir comment le gouvernement bolivarien organise les relais parallèles. C'est lié à la création en 2016, pour pallier à cette difficulté à importer les aliments, à la création de ce qu'on appelle les CLAP, comités locaux d'approvisionnement et de production, hein, qui ont permis au gouvernement vénézuélien d'alimenter 6 millions de personnes avec des produits subventionnés. Donc en réalité, l'arrestation d'Alex Saab, c'est la perpétuation des sanctions, ce qu'on appelle les sanctions, pour aller vite, par les États-Unis. Dans la mesure où ces mesures coercitives, elles touchent à la fois l'industrie pétrolière, elles touchent, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'eau, l'électricité, et il fallait pour les États-Unis, pour Donald Trump en particulier, pousser la population à la révolte en l'affamant. Quand on parle de crimes contre l'humanité, c'est pas complètement par hasard. Il s'agissait d'affamer la population. Et donc Saab a été une pièce importante. Alors c'est pas Saab, c'est pas un petit saint. Hein. C'est un homme d'affaires. Il prend son bénéfice au passage. C'est un homme qui vivait sur un grand train. Mais c'est pas l'aspect central de la question.
Alors précisément, on évoquera dans la deuxième partie de l'émission l'aspect très géopolitique finalement de la crise du Venezuela, avec d'un côté les sanctions en provenance des États-Unis, du Canada, de l'Union européenne, et puis précisément cette mobilisation d'un certain nombre de pays, Iran, Russie, Chine, Turquie, Inde également, pour venir en aide au gouvernement de Nicolas Maduro. Géopolitique, on vous retrouve, Benjamin Delisle, Maurice Lemoine et Thomas Posado. Après le journal, à tout de suite.
Carrefour de l'Europe. Géopolitique. Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur le Venezuela à la veille d'un scrutin qui doit renouveler les postes de gouverneur et les postes de maire au Venezuela. Nous retrouvons nos invités depuis Caracas. Benjamin Delisle, journaliste, reporter au quotidien Libération. Thomas Posado, docteur en sciences politiques à l'université Paris 8, chercheur associé au CRESPA, CSU, culture et société urbaine, et membre scientifique de la Casa de Velázquez à Madrid, co-directeur avec Franck Godichaud de Gouvernement Progressiste en Amérique latine, 1998-2018, La fin d'un âge d'or, paru cette année aux presses universitaires de Rennes. Et en studio, Maurice Lemoine, journaliste et écrivain, auteur de Venezuela, chronique d'une déstabilisation, paru aux éditions Le Temps des Cerises. Benjamin Delisle, on a terminé la première partie de l'émission en évoquant l'extradition vers les États-Unis, c'était le 17 octobre dernier, de l'homme d'affaires Alex Saab, extradé du Cap-Vert, donc vers les États-Unis. C'est un proche de Nicolas Maduro, accusé d'avoir détourné l'aide alimentaire destinée au Venezuela, qui connaît donc une politique de sanctions imposée par les États-Unis, le Canada et l'Union européenne. Commentaire sur cette extradition.
Ce qui est intéressant avec cette extradition, c'est qu'on sent que c'est un vrai problème pour le gouvernement. Et c'est pour ça que les négociations au Mexique ont été suspendues. Quand le gouvernement parle de séquestro, de kidnapping, comme le disait Maurice Lemoine, ça pose une vraie question sur la nature de la relation entre Alex Saab et le gouvernement. Maurice Lemoine le disait, c'est pas un saint. Par contre, il y a quelque chose à comprendre, c'est qu'il y a quand même eu des enquêtes journalistiques, notamment du site Armando Info, qui est maintenant exilé en Colombie, sur les activités d'Alex Saab, qui montraient qu'il y avait énormément de surfacturation sur les différents contrats qu'il avait signés avec le gouvernement vénézuélien, donc pour l'aide alimentaire, mais aussi pour la construction en 2011. Ses premiers contrats, c'était en 2011, sous Chavez, de préfabriqués, qui pose des questions sur vraiment à quoi servait Alex Saab. Est-ce qu'il servait vraiment à, justement, comme le disait Maurice Lemoine, aider la population à aller chercher des aliments alors que les États-Unis empêchaient le pays d'importer? Ou est-ce qu'il a servi le pays pour permettre à pas mal d'argent de sortir? Et c'est intéressant, ça va être intéressant de suivre son procès aux États-Unis, parce que le département du Trésor américain, visiblement, a un certain nombre d'éléments sur Alex Saab. Alors, peut-être que Maurice Lemoine va remettre ces éléments en question, mais je pense que c'est intéressant de suivre ce procès-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment est-ce que le gouvernement vénézuélien défend Alex Saab, parce que avant son arrestation au Cap-Vert en 2020, il n'était jamais évoqué par le gouvernement. Il n'a jamais été évoqué par, en tout cas, Nicolas Maduro. Et depuis qu'il est arrêté et qu'il y a cette menace d'extradition, puis son extradition en octobre qui a été actée, le gouvernement vraiment met tous ses moyens pour le défendre, en disant que c'est un diplomate vénézuélien, qui était un statut qu'il n'avait vraisemblablement pas, en tout cas officiellement, avant, et qui semble être apparu après. Et ce qui est intéressant ici à Caracas, c'est de voir que même au sein des soutiens du chavisme et de Nicolas Maduro, cette version du diplomate vénézuélien enlevé, et donc de la Convention de Vienne violée, disons, par les États-Unis, ne convainc pas forcément. On a du mal à comprendre comment est-ce que cet entrepreneur colombien est devenu diplomate sans que ce soit, voilà, devenu un personnage public, sans qu'on ait parlé de lui avant son arrestation en 2020. Donc il y a vraiment un questionnement autour de ça, sur pourquoi est-ce que le gouvernement est aussi attaché à cette défense-là et a été prêt à suspendre les négociations pour la défense d'Alex Saab. Alors, je pense que les négociations vont reprendre, mais c'est quand même un point central de cette négociation qui se met en place entre l'opposition et le gouvernement, et a fortiori avec les États-Unis.
Alors, évidemment, cet octroi du statut de diplomate pour Alex Saab, Thomas Posado, est évidemment pour lui permettre et lui donner l'immunité.
Oui, tout à fait. Enfin, après, le cas d'Alexab est très significatif de toutes les contradictions que vit le Venezuela, parce que à la fois c'est quelqu'un qui a détourné les mesures coercitives que mettent en place les États-Unis pour approvisionner le Venezuela, et c'est à la fois quelqu'un qui est très significatif de ce qu'on appelle au Venezuela de la boulie bourgeoisie, c'est-à-dire des gens qui se sont enrichis au contact du gouvernement de l'État vénézuélien et enrichis sur des montants très très importants. C'est un homme d'affaires qui s'enrichit de manière extrêmement importante, en partie en raison des sanctions des États-Unis, mais aussi aux dépens des ressources de l'État vénézuélien avec la complicité du gouvernement. Et c'est toutes les contradictions du processus qui se passe au Venezuela qui émergent avec ce cas. C'est-à-dire qu'à la fois, effectivement, c'est pas aux États-Unis de juger des actes qui seraient faits à l'égard du Venezuela, mais d'un autre côté, c'est pas le militant internationaliste et c'est quelqu'un qui s'est enrichi, y compris aux dépens de l'État vénézuélien. Donc c'est toutes les contradictions de ce processus qui peuvent émerger à travers cette trajectoire en particulier.
Voilà,
juste une précision très très courte. Les chefs d'inculpation qui sont attribués à Alexab par le département du Trésor américain couvrent une période qui va de 2011 à 2015, portant sur 350 millions de dollars. Il se trouve que la justice suisse s'est intéressée à l'affaire, a enquêté pendant 3 ans et vient de arrêter l'enquête en disant qu'il n'y avait absolument aucune preuve de prévarication de la part de Alexab.
Alors, en tout cas, une affaire à suivre. Voilà. Alors, on va poursuivre sur l'aspect un peu géopolitique finalement de la crise vénézuélienne. Si Nicolas Maduro est toujours au pouvoir, c'est grâce au soutien d'un certain nombre de pays, Cuba et le Nicaragua pour l'Amérique latine, la Russie, la Chine, l'Iran. Il y a une sorte d'international des pays sanctionnés par les États-Unis qui s'est créé. Et beaucoup de pays ont des intérêts dans l'affaire vénézuélienne, ont des intérêts aussi à ce que Nicolas Maduro reste au pouvoir. La Chine, elle est très présente dans le pays. Elle a prêté 45,1 milliards de dollars entre 2007 et 2016 avec le pétrole comme garantie. La Chine, pour qui le Venezuela finalement constitue et a constitué un point d'entrée en Amérique latine. Commentaire, alors peut-être Maurice Lemoine.
Oui, alors d'abord, si Maduro est encore au pouvoir, de mon point de vue, c'est aussi pour des raisons intérieures, c'est parce qu'il y a un noyau dur du chavisme qui représente entre 25 et 30% de la population qui continue à appuyer Nicolas Maduro, y compris à travers ce qu'on appelle les conseils communaux, les communes, etc. Après, évidemment, je veux dire, à partir du moment où vous êtes un pays agressé, vous vous tournez vers d'autres pays agressés, ce qui fait que ça donne le sentiment d'alliance pas forcément sympathique. Par exemple, il s'est établi une alliance entre la Turquie et le Venezuela. Je suis pas sûr que chez ceux qui nous écoutent, beaucoup ont une sympathie pour Erdogan. Après, il faut expliquer les logiques. Si le Venezuela réussit à continuer par des circuits parallèles à importer de l'alimentation, par exemple, dans la mesure où il n'a plus de revenus pétroliers à cause de l'embargo, il a payé avec de l'or. Or, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, le Venezuela n'a pas la capacité de raffiner à 100% son or, il le raffine à 90%, donc il le faisait raffiner en Suisse. Il se trouve que la Suisse a trouvé l'excellente idée de suivre l'Union européenne dans les sanctions au Venezuela, donc le Venezuela ne donne plus son or à raffiner en Suisse, mais a trouvé la Turquie pour le raffiner. On a donc des alliances de fait, des alliances objectives entre des pays qui ne sont pas tous forcément sympathiques dans leur mode de gouvernement, mais qui, on va dire, refusent l'unilatéralisme des États-Unis. Donc voilà, c'est aussi bête que ça. Si l'Union européenne n'imposait pas des sanctions aux États-Unis, le Venezuela ne serait pas obligé de se jeter dans les bras de la Russie, de la Chine ou de l'Iran.
Il y a aussi une présence assez importante de l'Inde et la Turquie, à propos de laquelle on dit précisément que le Venezuela est devenu le nouveau terrain de jeu de la mafia turque pour le trafic de drogue. Je ne sais pas si c'est vrai, pas vrai. Commentaire, Benjamin Delisle.
Ça, c'est des choses qui sont vraiment très compliquées à prouver. Là-dessus, j'ai un peu de mal à faire un commentaire. Ce qui est certain, c'est que, comme le disait Maurice Lemoine, la Turquie est devenue un partenaire majeur sur, justement, la raffinerie, en tout cas, de l'or. Et ce qui pose aussi des questions, puisque le traitement, la production de l'or au Venezuela est extrêmement opaque. Tout se passe dans le sud du Venezuela, dans ce qu'on appelle la zone de l'arco minero, donc l'arc minier, dans une zone où il est très difficile d'accéder. En tout cas, en tant que journaliste, c'est extrêmement compliqué d'aller sur place et de comprendre vraiment ce qui se passe. Donc il y a, je pense, toute une production légale, mais il y a des soupçons, voilà, de présence de groupes proches des guérillas colombiennes, de groupes de délinquance organisée, d'orpailleurs, etc., qui, comme ça se voit dans d'autres pays, au Brésil, même en Guyane française. Et la Turquie, effectivement, en profite de cette alliance de fait pour, voilà, nouer un partenariat privilégié avec Caracas.
Alors, un autre élément sur lequel je souhaiterais qu'on dise quelques mots, c'est la décision annoncée d'une enquête pour crimes contre l'humanité de la part de la Cour pénale internationale, des crimes perpétrés pour ce dossier précisément durant les manifestations de l'opposition en 2017, qui a fait plusieurs centaines de morts et de nombreux détenus. Thomas Posado, un commentaire ?
Oui, cette enquête, c'était l'objet d'une négociation, comme tout, enfin, au Venezuela, où le gouvernement de Nicolas Maduro fait en sorte que cette enquête ait lieu au Venezuela en contrepartie du fait que les personnes soient jugées au Venezuela avec tout un enjeu sur que la Cour pénale internationale pointe sur est-ce que ils vont être jugés de manière impartiale, etc. C'est pas les premières choses hein, où le Venezuela est incriminé sur ses droits humains. Il y a eu un certain nombre de rapports des Nations Unies qui sont faits et qui répondent également à ces enjeux géopolitiques, c'est-à-dire que la manière de mettre au banc le Venezuela sur ces questions-là, elles obéissent aussi à des enjeux géopolitiques. L'Arabie Saoudite n'est pas mise au banc de la même manière. Je crois qu'il y a des enquêtes, par contre, en Colombie, dans la Colombie voisine, pour des enjeux qui sont politiquement différents. Mais il y a à la fois ce rapport de force entre la Cour pénale internationale et le Venezuela et des enjeux géopolitiques qui sont bien réels sur cette question-là.
Maurice Lemoine.
Écoutez, cette affaire de la Cour pénale internationale, c'est un peu un rideau de fumée. Je précise qu'il y a une autre plainte qui a été portée devant la Cour pénale internationale par le Venezuela pour crime contre l'humanité, contre les États-Unis et leur blocus financier. Après, sur les accusations de crimes contre l'humanité au Venezuela, il suffit de regarder les rapports aussi bien d'Amnesty International, Human Rights Watch, y compris Mme Bachelet, la haute représentante des droits de l'homme à l'ONU, pour voir qu'il y a un rideau de fumée. Je prends quelques chiffres qui ont été donnés. Vous avez en mai 2019 Amnesty qui dit qu'il y a au moins 8000 exécutions extrajudiciaires entre 2015 et 2017. Et puis ensuite, on nous dit, Mme Bachelet, qu'il y a eu 5287 morts pour la seule année 2018. Et puis, quelques mois plus tard, Mme Bachelet nous dit qu'il y a eu 5094 meurtres depuis 2014. Tout ça est complètement incohérent. C'est-à-dire qu'on sort n'importe quel chiffre. Et le problème, c'est que nos confrères reprennent systématiquement ces chiffres sans les mettre en relation les uns avec les autres. Donc, il y a eu deux vagues de violence au Venezuela, 2014-2017, ce qu'on a appelé les guarimbas, dans lequel il y a eu de la répression, dans lequel il y a eu des victimes de deux côtés, je le précise. Hein, au Venezuela, lorsqu'il y a des manifestations, vous avez des membres des forces de sécurité qui tombent tués par balles. Le thème des droits de l'homme, là, pour le coup, de mon point de vue, est instrumentalisé pour diaboliser le gouvernement de Nicolas Maduro, qui n'est pas plus parfait qu'un autre, mais qui n'est pas non plus criminel qu'un autre.
Alors, pour en revenir à la question de ce scrutin donc de demain, scrutin régional et municipal, on l'a dit, 23 postes de gouverneur en jeu et 335 postes de maire, un scrutin sous surveillance, 350 000 militaires et policiers mobilisés, à quoi s'ajoute une mission d'observation de l'Union européenne, des experts de l'ONU et du centre Carter fondé par l'ex-président américain Jimmy Carter. Quel commentaire faire sur cette présence d'observateurs, Benjamin Delisle? Et puis, quels sont aussi, pour chacun de vous trois invités, les scénarios possibles dans l'après-scrutin? Qu'est-ce qui peut se passer au Venezuela, Benjamin Delisle?
Alors, sur la présence des observateurs, donc la Fondation Carter et l'ONU, c'est vraiment une présence assez faible. On parle de 3-4 personnes qui sont là pour venir observer le scrutin, alors que la mission de l'observation européenne, c'est vraiment beaucoup plus conséquent. Ils ont envoyé deux observateurs de long terme qui sont mis en place depuis la fin du mois d'octobre dans chacun des États vénézuéliens, sauf l'État d'Amazonas dans le sud. Et là, il y a 22 personnes qu'on appelle des observateurs de court terme qui sont allés les appuyer pour observer le scrutin en tant que tel. Ce qui est intéressant avec cette mission d'observation, c'est que ça montre que l'Union européenne est dans une autre optique que celle des États-Unis. D'ailleurs, les États-Unis n'étaient pas très heureux de voir l'Union européenne observer ce scrutin, parce qu'ils avaient peut-être l'impression que ça allait légitimer aussi la victoire du chavisme, qui semble assez certaine vu les taux de participation. En tout cas, ça montre que l'Union européenne veut peser un peu plus lourd au Venezuela, veut mettre en avant cette logique de discussion, d'avancer de pas à pas. Et c'est assez intéressant de voir l'Union européenne se dédouaner un peu des États-Unis. On se demandait si avec l'élection de Joe Biden, les États-Unis allaient changer de posture vis-à-vis du Venezuela et si Joe Biden allait finalement rejoindre cette logique de discussion. Ça n'est pas du tout le cas. Hein. Dans les faits, on sent que les États-Unis ne s'intéressent pas tellement plus que ça au Venezuela. En tout cas, ne change pas la politique. La politique reste celle qui a été mise en place sous Trump. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette mission d'observation, elle vient servir l'élection au sens où les gens sont rassurés par l'observation de l'Union européenne, ce qui pourrait pousser quelques personnes à voter. Et la conséquence, a priori, de ce scrutin demain, c'est que l'opposition, même si elle n'est pas gagnante, va pouvoir se recomposer un peu. Il y a des nouveaux acteurs qui arrivent et qui vont pouvoir peut-être remettre en cause la direction de l'opposition revendiquée par Juan Guaido et Leopoldo López. Pour aller dire, voilà, maintenant, nous sommes élus, nous avons une assise populaire, c'est peut-être à nous que revient le droit de négocier, et non plus à des personnes qui n'ont pas boycotté cette élection, mais par exemple, Juan Guaido et Leopoldo López ont dit, en tout cas, Leopoldo López a dit que s'il était au Venezuela, il ne voterait pas. Donc c'est quand même un message assez clair envoyé à ses sympathisants.
Tout en n'appelant pas l'abstention, on est d'accord.
En n'appelant pas à l'abstention, mais en tout cas, voilà, il y a une recomposition de l'opposition qui va se mettre en place, et c'est intéressant parce que c'est quand même quelque chose de positif pour ramener à une forme d'institutionnalisation, en tout cas au Venezuela, et une forme de dialogue.
Donc l'Union européenne, et je le rappelle, Thomas Posado, qui avec donc cette mission d'observation, elle est par ailleurs revenue sur son soutien officiel à Juan Guaido, contrairement à un certain nombre de pays, à commencer par les États-Unis. Commentaire Thomas Posado sur ce qui vient d'être dit par Benjamin Delisle et sur les scénarios possibles de l'après-élection. Est-ce qu'il y a des chances pour qu'il y ait une certaine stabilisation du pays ?
Oui, bah, l'organisation de ces élections est déjà un signal de normalisation par rapport à ce qui a pu se passer depuis 4 ans. Hein. Y a des observateurs internationaux, il y a une majeure partie de l'opposition qui participe, contrairement au scrutin précédent. Alors après, il reste des pressions sur le vote. Hein. Y a le Parti communiste qui anime une coalition qui a basculé dans une forme d'opposition. Alors, détaché du reste de l'opposition, une opposition de gauche, disons, qui se plaint d'une quinzaine d'évictions de candidatures de manière arbitraire par le Conseil national électoral. Donc, il reste des pressions sur le vote, mais sans doute pas dans le scrutin en tant que tel. Les scrutins en tant que tel au Venezuela, c'est pas là où il y a le plus de moments où le scrutin peut être faussé. C'est plus sur les candidatures avant ou sur les pressions sur le vote avant, mais pas sur le scrutin en tant que tel. Il y a quelques cas d'irrégularité, mais ils sont assez rares. Sur ce qu'il disait sur les droits humains, je voudrais revenir. Les milliers de morts qui ont été évoqués, c'est pas des opposants politiques, c'est pas une répression physique de milliers d'opposants qui seraient abattus, c'est pas le cas du Venezuela. Là où on a des répressions qui sont politiques, c'est les moments des manifestations 2014-2017 où une majorité de morts sont responsabilité du gouvernement, mais où effectivement il y en a des deux côtés. Les milliers de morts qui ont été renseignés, c'est davantage d'un arbitraire policier dans la répression d'une délinquance et qui est de manière tellement excessive que effectivement on a ces conséquences qui ont été documentées, hein, qui sont des faits avérés. Alors le nombre de milliers de morts varie selon la période qu'on prend, mais qui sont des faits avérés, qui ne sont pas de la répression politique dans le sens d'assassinat d'opposants politiques où on basculait dans un régime qui serait d'autoritarisme absolu, ce qui n'est pas le cas dont on parle au Venezuela.
Maurice Lemoine.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Posado, mais ce n'est pas grave, on va passer à autre chose. Sur l'élection, moi je ne fais jamais de prévision, mais il va y avoir une très forte abstention. D'abord pour les raisons qu'on a évoquées, l'opposition étant complètement dispersée, mais aussi du côté du chavisme. Il ne faut pas l'oublier parce qu'il y a au sein même du chavisme, entre ce qu'on va appeler les secteurs populaires, les conseils communaux, etc., il y a un certain ressentiment vis-à-vis des hommes politiques, hein, de la politiquerie, comme on dit là-bas. Donc il va y avoir aussi une abstention de ce côté-là, donc on aura une forte abstention. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer, mais il y a une grande crainte au sein du chavisme, c'est que la victoire soit trop éclatante. C'est-à-dire que, compte tenu de la dispersion de l'opposition, le chavisme craint d'avoir une victoire tellement écrasante qu'on va pouvoir dire « Regardez, il y a encore eu des fraudes, le chavisme a gagné », y compris un proche de Nicolas Maduro m'a rapporté que Maduro dit « Mais enfin, on ne peut pas voter pour eux quand même ». Donc ça, c'est une crainte. Après, sur les observateurs de l'Union européenne, il y a, il faut le dire, une certaine inquiétude, compte tenu du précédent de la Bolivie, hein, où l'Union européenne a entériné ce qu'on peut appeler maintenant le coup d'État contre Evo Morales, y compris avec, alors, sur la Bolivie, une escroquerie. On a parlé d'une mission d'observateurs de l'Union européenne. Il y avait deux observateurs de l'Union européenne, donc ils se sont contentés de suivre l'organisation des États américains. Mais en tout état de cause, effectivement, je partage ce qui a été dit par Benjamin Delisle. On est dans une situation où, en fait, on a un double duel. On a l'opposition contre Nicolas Maduro, contre le chavisme, et aussi on a un autre duel qui est l'opposition modérée contre l'opposition radicale. Et ça, évidemment, c'est aussi important que le rapport opposition Nicolas Maduro.
Alors l'élection au Venezuela, une élection dont on reparlera bien sûr sur RFI. Merci à chacun. Benjamin Delisle, je rappelle que vous étiez avec nous en direct depuis Caracas et que vous êtes journaliste reporter au quotidien Libération. Également par téléphone, mais depuis Madrid, Thomas Posado, docteur en sciences politiques à l'Université Paris 8, chercheur associé au CRESPA CSU et membre scientifique de la Casa de Velázquez à Madrid et co-directeur avec Franck Godichaud de Gouvernement progressiste en Amérique latine, la fin d'un âge d'or paru cette année aux presses universitaires de Rennes, et Maurice Lemoine, journaliste et écrivain, auteur de Venezuela, chronique d'une déstabilisation aux éditions Le Temps des Cerises. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. Demain, nous serons à Marseille où se tiennent ce week-end les rencontres d'Averroès. Nous évoquerons notre monde sur le registre vérité, post-vérité, contre-vérité et autres complotismes.